VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour et bienvenue du nouveau au Burkina Faso. Le procès des auteurs du putsch manqué de septembre 2015 a été suspendu et renvoyé au 9 mai. Les généraux Djibril Bassolé et Gilbert Diendéré et 82 co-accusés devaient être entendus aujourd'hui. Notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon, nous a fait savoir que 14 accusés qui se sont retrouvés sans conseil ce matin. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a affirmé aujourd'hui être la victime d'accusations politiques au premier jour du procès pour corruption qui lui est intenté dans une affaire de vente d'armes vieille de près de 20 ans. Deux mois après sa démission, M. Zuma a brièvement comparu dans le box des accusés de la haute cour de Durban dans le nord-est du pays pour une brève audience, aussitôt renvoyée donc au 8 juin pour permettre aux partis de peaufiner leurs arguments. À l'époque des faits, ministre provincial puis vice-président du pays, M. Zuma, âgé de 75 ans, est soupçonné d'avoir touché des pots de vin de la part du groupe français Thales à l'occasion d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros attribué en 1999. L'entreprise d'électronique et de défense est également poursuivie. Une nouvelle session de pourparlers pour répondre aux inquiétudes de l'Égypte sur un méga barrage que construit l'Éthiopie sur le Nil a échoué. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui un ministre soudanais impliqué dans les discussions. Les ministres des Affaires étrangères et les chefs des services de renseignement d'Égypte, du Soudan et d'Éthiopie ont tenu hier à Khartoum des négociations marathon afin de trouver une issue aux différends. Les précisions d'Idrissa Seydoudia.
L'Égypte craint que la construction du gigantesque barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu, entamé en 2012, n'entraîne une réduction du débit du fleuve dont elle dépend à 90% pour son approvisionnement en eau. L'Égypte insiste sur ses droits historiques sur le fleuve garantis par des traités datant de 1929 et 1959 qui accordent près de 87% du débit du fleuve à l'Égypte et au Soudan. Le barrage de la Renaissance est censé devenir la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique. Il devait initialement commencer à fonctionner en 2017, mais selon les médias éthiopiens, sa construction n'est achevée qu'à 60%. Après s'être opposé au projet, le Soudan soutient désormais le barrage. Le Nil Bleu, qui prend sa source en Éthiopie, rejoint le Nil Blanc à Khartoum pour former le Nil qui traverse le Soudan et l'Égypte avant de se jeter dans la Méditerranée.
À propos du président ghanéen qui fait polémique dans son pays, Nana Akufo-Addo a assuré hier dans un discours retransmis à la télévision que son pays ne signerait pas d'accord avec Washington pour y installer une base militaire. Le président ghanéen au pouvoir depuis un an a confirmé que les deux pays avaient reconduit un accord de coopération, mais que le Ghana n'offrait pas de base militaire aux États-Unis. Le président Akufo-Addo a toutefois rappelé les difficultés pour maintenir la paix et le besoin de prudence. Ses voisins d'Afrique de l'Ouest, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Côte d'Ivoire, ont été déjà la cible d'attentats revendiqués par différents groupes islamistes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La République démocratique du Congo a fait des progrès ces derniers mois et semble s'acheminer vers l'organisation d'élections le 23 décembre 2018, selon un rapport de l'International Crisis Group. L'ONG a relevé des inquiétudes qui persistent sur la transparence et la qualité du scrutin. Les détails, Didier Sango.
Poker électoral en RD Congo est l'intitulé du rapport. International Crisis Group estime que les perspectives de la tenue d'élections cette année se sont améliorées. L'ICG cite comme élément de progrès la publication du calendrier électoral, la promulgation de la loi électorale et la fin de l'enregistrement des électeurs par la commission électorale. Pour l'ICG, le régime de Kinshasa est plutôt en position de force. Il contrôle fermement l'État et la machinerie électorale et l'opposition reste divisée. L'ONG prévient que le climat d'insécurité pourrait servir de prétexte pour reporter à nouveau ces élections. L'ICG appelle tous les acteurs à contribuer à l'organisation des élections crédibles et recommande au gouvernement d'autoriser tous les candidats à se présenter, à moins que des obstacles juridiques clairs ne s'y opposent. Un des opposants, Moïse Katumbi, après avoir été condamné dans une affaire immobilière, est aussi poursuivi dans une affaire de recrutement des mercenaires.
Les cérémonies de commémoration du génocide se tiennent demain au Rwanda. L'association française Survie demande au président Emmanuel Macron de reconnaître enfin la responsabilité de la France. Un Rwandais naturalisé français a été interpellé hier à Yaoundé. Le point, Yakuba Ouedraogo.
On demande à Emmanuel Macron de reconnaître officiellement que la France a soutenu le régime génocidaire avant, pendant et après les massacres, a déclaré Thomas Borrell de l'association Survie. Paris a toujours démenti toute implication dans les massacres. Par ailleurs, Philippe Atégué Kimana, devenu Philippe Manier depuis sa naturalisation française, a été interpellé à Yaoundé après un mandat d'arrêt lancé par un tribunal de Paris. Cet ancien adjudant-chef rwandais est soupçonné d'avoir organisé et participé à des massacres de milliers de personnes dans la région de Butare. Il avait fui après le génocide et s'était depuis domicilié dans la région de Rennes en France. Selon l'ONU, près de 800 000 personnes ont été tuées en 3 mois dans des massacres déclenchés le 6 avril 1994. 24 ans après, Kigali accueille demain samedi les cérémonies de commémoration. Pour les survivants, Ibuka signifie « souviens-toi », un devoir de mémoire.
Merci, Ouedraogo. Le parquet burundais a requis mardi la réclusion à perpétuité contre un activiste de la société civile au Burundi, notamment pour assassinat de militaires, policiers et civils, a alerté une ONG dans un communiqué reçu par l'AFP. Germain Rukuki, qui travaille dans le milieu associatif depuis de longues années, avait été arrêté le 13 juillet 2017 par le très redouté Service national du renseignement SNR et détenu au secret dans ses cachots à Bujumbura pendant plus d'un mois avant d'être transféré à la prison de Ngozi dans le nord du Burundi où il est détenu depuis. À Washington, il est 7h07.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Jean-Roger Billon à ce micro. L'ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye a été condamnée aujourd'hui par un tribunal de Séoul à 24 ans de prison dans le procès du retentissant scandale de corruption qui avait entraîné sa chute l'année dernière. Première femme élue présidente en Corée du Sud, Mme Park, qui avait été destituée et arrêtée en mars 2017, a été jugée coupable de corruption, abus de pouvoir ou encore coercition par le tribunal qui lui a infligé une amende de 18 milliards de won, soit 13 millions d'euros. La Chine a assuré aujourd'hui ne pas craindre de payer le prix d'une guerre commerciale avec les États-Unis après que le président Donald Trump eut doublé les enchères en menaçant de viser les importations chinoises à hauteur de 100 milliards de dollars. Le point avec Anne Alberson.
Donald Trump s'est lancé dans une lutte sans merci contre le déficit commercial des États-Unis qu'il voit comme le signe de la faiblesse de ses prédécesseurs qui ont laissé le reste du monde tirer profit des États-Unis. Et la Chine est plus que jamais dans son collimateur. Le ministère chinois du commerce a réagi sans tarder aux derniers agissements du président américain. La Chine est prête à aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Pékin a pris soin d'établir sa liste de futurs produits à taxer pour frapper le plus durement possible des régions qui ont voté en faveur de Donald Trump aux États-Unis. La Chine a aussi déposé plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce concernant les mesures tarifaires visant des produits chinois que les États-Unis entendent mettre en place. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, en visite à Moscou jeudi, en a appelé à la mobilisation internationale contre Washington. La perspective d'un conflit commercial en bonne et due forme inquiète les investisseurs et les cours de la bourse en ont pâti ces dernières semaines.
Des affrontements ont éclaté aujourd'hui entre manifestants palestiniens et soldats israéliens près de la barrière séparant la bande de Gaza et Israël, où les violences, il y a une semaine, ont coûté la vie à 19 Palestiniens. Des Palestiniens ont incendié des pneus et lancé des pierres sur les soldats israéliens qui ont riposté en tirant des gaz lacrymogènes et des balles réelles selon l'AFP. Des centaines de Palestiniens ont commencé ce vendredi à se rassembler à différents endroits le long de la barrière dans le cadre d'une protestation demandant le retour des réfugiés palestiniens sur les terres d'où ils ont été chassés ou qu'ils ont dû fuir à la création de l'État d'Israël en 1948. Israël a prévenu hier que les consignes de tir données à ses soldats seraient les mêmes que lors de la journée du 30 mars où les manifestations pour le droit au retour avaient vu l'armée tirer à balles réelles sur les Palestiniens. Point final à ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon week-end à vous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.